Votre vie éternelle commence maintenant. Aujourd'hui, nous allons examiner de plus près nos récompenses éternelles, celles qui sont associées à notre vie éternelle. Plus précisément, nous allons étudier deux des couronnes mentionnées dans le Nouveau Testament, la couronne incorruptible et la couronne de vie. Au fur et à mesure que le sujet se dévoilera à nous, nous verrons comment les actions pieuses que nous accomplissons aujourd'hui alimentent et rendent possibles les récompenses dont nous pourrons jouir à l'avenir, ce que j'aime appeler les choses qui durent. Lorsque ma mère est décédée, je n'avais aucun regret. Même si j'avais un profond sentiment de perte, après avoir perdu une mère qui était aussi une amie de toujours, mon cœur était néanmoins en paix, sachant l'amour que j'avais partagé avec elle tout au long de sa vie. Je ne l'ai peut-être pas fait parfaitement, mais par la grâce de Dieu, je crois que je l'ai fait fidèlement. Où va l'amour lorsque nous mourons? Aujourd'hui, alors que je vous parle, l'amour que je porte à mes parents décédés continue de vivre dans mon cœur. Mais un jour, moi aussi, je reposerai en paix, si le Christ ne revient pas avant. Que deviendra alors l'amour que nous avons partagé? Dieu, dans son amour, sa miséricorde et sa grâce infinie, a prévu un moyen de conserver toutes les bonnes choses pour l'éternité. Il nous exhorte à rechercher ces choses dans cette vie. En 1 Timothée, chapitre 6, au verset 11, on nous exhorte « Recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, l'endurance patiente, la douceur. » Nous verrons que toutes ces merveilleuses vertus dont nous avons fait l'expérience en vivant pour Dieu au cours de notre vie terrestre, la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur, perdureront dans l'éternité. Aucune des choses bonnes et pieuses de notre vie actuelle ne sera perdue à l'avenir. Telle est la justice de notre Dieu juste. Lorsque nous naissons de nouveau, lorsque nous sommes nés de nouveau, nous avons reçu la vie éternelle, selon Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Notre vie future commence à un moment précis, celui où nous renaissons. À partir de cet instant, toute notre vie devient un prélude à l'éternité. Nous avons désormais la possibilité de faire des choses qui plaisent à Dieu, non seulement aujourd'hui, mais pour toujours. Ce sont ces choses qui constituent nos récompenses éternelles, dont l'une est les couronnes. Ce que nous faisons aujourd'hui aura de l'importance demain. Veuillez vous reporter à 1 Timothée 6. Comprenant ces choses au sujet de la vie éternelle, que veut dire l'Écriture lorsqu'elle nous exhorte à saisir la vie éternelle? 1 Timothée, chapitre 6, verset 12. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable, c'est-à-dire éternelle. Comment pouvons-nous nous approprier quelque chose que nous n'avons pas encore reçu dans toute sa plénitude? Tout simplement parce que les choses que nous faisons aujourd'hui sur terre peuvent faire partie des choses qui durent dans les cieux à l'avenir. Et Dieu veillera à ce qu'aucune bonne action ne soit oubliée. Commençons par les couronnes. Ce que l'on appelle aujourd'hui les couronnes étaient à l'origine de simples couronnes de fleurs. Elles étaient faites de brindilles fraîchement coupées et pliées de manière à former un cercle que l'on pouvait poser sur la tête. En aide de feuilles vivantes, ces couronnes étaient donc considérées comme un symbole de vie, de fertilité et de fécondité. Le fait de porter une telle couronne était considéré comme la preuve de la bénédiction divine sur celui qui la portait. Ainsi, dès le début, les couronnes ont été associées à la vie. Bien qu'il soit parfois utilisé dans le contexte de la royauté, le mot « couronne » dans la Bible est surtout utilisé au sens figuré. Voici quelques-uns des exemples les plus connus. Dans les psaumes, protection et soin, bonté et miséricorde, en psaume 103. Psaume 103, verset 4. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de beauté et de miséricorde. Et veuillez vous reporter en Proverbe, Proverbe 12. Là, nous voyons l'honneur et l'autorité. Proverbe 12, 4. Une femme vertueuse est la couronne de son mari. Et en Proverbe 16, nous avons les cheveux blancs. Les cheveux blancs, verset 31, Proverbe 16, 31. Les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. C'est dans le chemin de la justice qu'on la trouve. Et continuons dans le prochain chapitre, Proverbe 17, verset 6. Les enfants des enfants sont la couronne des vieillards, vraiment. Et enfin, en Proverbe chapitre 4, là où on parle de la sagesse, elle, la sagesse, verset 9, mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle t'ornera d'un magnifique diadème. Et dans le livre d'Ésaïe, nous avons une relation précieuse entre l'Éternel, qui est la couronne de son peuple, et Israël, qui est la couronne de Dieu dans sa main. Voyons d'abord en Ésaïe 28, verset 5. En ce jour, l'Éternel des armées sera une couronne éclatante et une parure magnifique pour le reste de son peuple. Et en Ésaïe 62, verset 3, tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. Considérons maintenant la première couronne que j'ai mentionnée au départ, la couronne incorruptible. Pour cela, tournons-nous vers 1 Corinthiens 9. La couronne incorruptible est donnée pour avoir exercé la maîtrise de soi alors que nous courons vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste. 1 Corinthiens 9, 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Le grec, c'est katalambano, s'emparer de quelque chose afin de se l'approprier. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible ou impérissable. Contrairement à la nature périssable de nos corps terrestres, la couronne incorruptible ne se flétrira jamais. Pour la recevoir, nous soumettons nos corps terrestres à la domination de notre volonté, en exerçant la maîtrise du corps, de l'âme et de l'esprit. La couronne incorruptible s'inscrit dans le contexte des Jeux athlétiques. La couronne de vainqueur était le symbole de sa victoire. Verset 26. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Et continuons en Philippiens, chapitre 3, au verset 12. Moi, je vous lirai à partir de la version second 21. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint à la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, catalambano, puisque de moi aussi Jésus-Christ s'est emparé, catalambano. Frères et sœurs, je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé, catalambano, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Une condition préalable de la compétition, c'est de respecter les règles. Ceci, nous le voyons en 2 Timothée, chapitre 2, où on nous dit au verset 5, « Et l'athlète n'est pas couronné s'il a combattu suivant les règles. » Donc, la première exigence de l'athlète est la maîtrise de soi dans son intégralité, corps, âme et esprit. Maintenant, on va lire encore une fois 1 Corinthiens 9, 25. « Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. » En Matthieu 4, nous voyons l'exemple de maîtrise de soi donné par Jésus-Christ. Jésus-Christ était un maître de la maîtrise de soi, l'exemple parfait de la domination intérieure de soi, corps, âme et esprit. Nous le voyons très clairement dans sa réponse aux tentations du diable après avoir reçu l'Esprit de Dieu. Tout d'abord, sa maîtrise du corps en ce qui concerne la faim. Jésus-Christ a démontré sa maîtrise du corps par sa maîtrise de soi lorsqu'il a été confronté à la faim après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits. Puis nous avons sa maîtrise de l'âme, c'est-à-dire l'esprit, l'orgueil. Jésus-Christ a démontré sa maîtrise de l'âme ou de l'esprit dans sa maîtrise de soi lorsqu'il a été confronté à la tentation d'être fier de son statut céleste de fils de Dieu. Et finalement, nous avons la maîtrise de l'esprit en ce qui concerne l'adoration. Jésus-Christ a démontré sa maîtrise de l'esprit dans sa maîtrise de soi lorsqu'elle a été confrontée à la tentation d'adorer l'adversaire après s'être vu offrir tous les royaumes du monde et leur gloire. Nous pouvons faire preuve de maîtrise de soi car c'est un fruit de l'esprit. Selon Galates, chapitre 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédicité, la fidélité, la douceur, la tempérance, ce qui est la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Nous pouvons également faire preuve de maîtrise de soi, car c'est l'une des vertus divines qui accompagne la foi de Jésus-Christ. 2 Pierre 1, verset 5. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, c'est-à-dire la maîtrise de soi, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité. Ces sept traits de caractère du Christ, fondés sur notre foi, sont des choses qui durent. La vertu, l'excellence morale, la connaissance de Dieu, la tempérance, la patience, la piété, la bonté fraternelle et la charité. Verset 8. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Adopter la pensée du Christ dans ces domaines nous ouvrira la voie pour profiter d'une expérience de vie grandiose et glorieuse lorsque le Christ reviendra. Après avoir vu les joies de la couronne incorruptible, passons à la couronne de vie. Passons maintenant à l'épître de Jacques où nous aborderons les vérités relatives à cette couronne de vie. La couronne de vie est donnée pour avoir aimé le Seigneur et avoir patiemment enduré les tentations lors des épreuves. Jacques 1, verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. Dans l'expression « couronne de vie », le mot « vie » est ajouté pour expliquer la signification de « couronne ». Le sens littéral est donc « la couronne qui est la vie ». Contrairement à la nature mortelle de nos corps terrestres, la couronne de vie durera pour l'éternité. Pour la recevoir, nous persévérons avec la patience de l'espérance en surmontant l'épreuve de notre foi. Aucune menace mortelle ne peut jamais arracher celui qui a été couronné de vie par Dieu. Comme nous le disons dans Jacques 1:12, la couronne de vie est destinée à celui qui, par amour pour Dieu, a résisté à la tentation lorsqu'il a été mis à l'épreuve. Jacques 1, verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, l'endurance patiente. Mais il faut que la patience, c'est-à-dire l'endurance patiente, accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplir sans faillir en rien. Jésus-Christ a été le plus grand exemple qui ait jamais existé en manière de patience et d'endurance. Il a persévéré jusqu'à la fin, tout en gardant les yeux fixés sur le but. Et il est celui qui fait naître la foi et la mène à la perfection, selon la version second 21. Hébreux 12, verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance, endurance patiente, dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet Celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée. Nous pouvons faire preuve d'endurance parce que c'est l'une des vertus divines qui accompagne la foi de Jésus-Christ. 2 Pierre 1, verset 5. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu, la science, à la science, la tempérance, la maîtrise de soi, à la tempérance, la patience, l'endurance patiente, à la patience, la piété. Et enfin, pour en finir, nous allons étudier ce qui durera éternellement. En 1 Corinthiens chapitre 3, versets 10 à 15. Nous avons passé beaucoup de temps à réfléchir aux choses qui durent et à la manière de les intégrer dans notre vie terrestre. Dieu, dans sa miséricorde et sa grâce, veut que nous profitions de chacune d'entre elles. Lorsque le Christ reviendra, nous ne serons pas jugés pour nos péchés, car Dieu les a déjà effacés au moment de notre nouvelle naissance, lorsque nous avons été justifiés. Il ne nous reste plus qu'à être jugés au tribunal des récompenses pour les bonnes actions et les œuvres pieuses que nous avons accomplies. Pour nous préparer à ce jour, nous devons construire sur des fondations solides avec les meilleurs matériaux. 1 Corinthiens, chapitre 3, nous allons commencer par le verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâti dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre seul et unique fondement. C'est à nous de décider ce que nous construisons sur ce roc. Verset 12. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Comment notre travail se manifestera-t-il? À travers l'épreuve du feu. Selon 1 Pierre 1, 7, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Il semble étonnant qu'après avoir traversé une épreuve ardente, notre foi puisse néanmoins rester intacte à l'apparition de Jésus-Christ et, qui plus est, être trouvée digne de louange, d'honneur et de gloire. Comment cela est-il possible? La réponse réside dans notre choix de matériaux de construction. Les matériaux périssables seront brûlés, tandis que les matériaux durables passeront le test. 1 Corinthiens 3, verset 14. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Après l'épreuve du feu de l'avenir, ce qui restera de ce que vous aurez construit sera votre récompense. Si rien ne reste, vous ne perdrez pas votre salut. Cela est clairement énoncé dans 2 Corinthiens, 2 Corinthiens 5, verset 9. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. car il nous faut tous comparaître devant le tribunal du Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Les actions sans valeur dans cette vie sont celles qui ne sont pas dignes de l'éternité. Les bonnes actions sont celles qui le sont. C'est à nous de choisir comment nous voulons vivre, pour Dieu ou préoccupés et distraits par les choses de ce monde. Qu'un croyant né de nouveau reçoive ou non des récompenses éternelles, il jouira toujours d'un statut à part entière en tant que co-héritier avec le Christ pour l'éternité, car son salut est inébranlable ayant été fondé sur le Christ, le rocher solide. Aujourd'hui est le premier jour du reste de votre vie. Que construisez-vous? Votre vie éternelle commence maintenant.